Carnet de voyage. Une invitation. Can't
anybody see? Bonjour à tous, nous sommes dans Carnet de voyage. On va évoquer un voyage atypique, la traversée des Alpes de Barcelo à la Slovénie avec Sébastien Remilieu. Bonjour Sébastien. Un voyage atypique car vous avez eu la bonne idée d'emporter un parapente biplace et surtout votre compagne Céline Méoua pour voler à deux évidemment et faire ce qu'on appelle du marché-vol. C'est d'abord une aventure humaine de deux amoureux du vol qui deviennent deux tourtereaux en migration. Est-ce que ce plaisir double du vol partagé a été votre principale motivation?
On avait déjà fait un voyage dans les Pyrénées similaire 2 ans auparavant. C'était effectivement un premier test pour voir si derrière on se motivait à faire éventuellement plus long et du coup c'est ce qui s'est passé. Et effectivement le biplace c'est génial pour partager tout en direct et ça a été effectivement un des moments, un des points clés de ce voyage quoi. Pouvoir le faire à deux sous la même voile c'est parfait. Ouais.
Je crois que dans les Pyrénées vous aviez dit que le biplace était moins lourd que deux voiles monoplace. Il fallait opter
avec
pour le
le
biplace.
matériel à l'époque, ouais. Ouais.
Et vous avez dit aussi que quand on est à deux, évidemment, voler à deux, on peut s'aider à raisonner, se rassurer, et même on est sûr de se poser dans la même vallée.
Un peu ironique la dernière phrase, effectivement, si on ne se pose pas au même endroit, c'est qu'il y a un gros problème.
Ouais.
Mais exactement pour le reste du vol, ça permet d'être deux pour analyser le ciel, du moment qu'on est deux pilotes, trouver un peu les endroits où on pense pouvoir cheminer en volant. Réfléchir à la masse d'air, les atterrissages et ainsi de suite. Et même dans les moments où, par exemple, il peut faire très froid quand tu es quelques heures à plus de 3000 mètres, puis à l'onglet, il passe les commandes au deuxième et ça permet de rester en l'air sans trop souffrir du froid. Ouais.
On se pose évidemment des questions pratiques. Quelle répartition des rôles entre pilote et navigateur? Vous tirez à la courte paille ou vous engueulez pour savoir qui va être le pilote commandant de bord?
Pour ça, on ne s'est pas trop pris la tête. Au final, on n'a pas tout à fait le même niveau en vol, du coup on n'a pas forcément les mêmes attentes, on n'apprécie pas exactement les mêmes vols, les mêmes masses d'air. Donc quand c'était Tony qui avait moyen de faire beaucoup de kilomètres en l'air, c'était plutôt moi le pilote. Et sur les vols un peu plus doux, où c'était plus calme, c'était plutôt Céline.
Les choix tactiques, en définitif, vous les prenez à deux ou quand c'est trop compliqué, c'est toi qui évalue la situation?
Non, globalement, on est toujours deux et il faut qu'on soit à peu près tous les deux d'accord pour valider un choix. Ouais.
Vous avez rapporté un film de cette aventure avec des images superbes qui sont tournées en chasecam avec une caméra derrière le parapente. Alors, il y a plein de poésie, plein de nature et plein d'humour. Par exemple, on y voit Céline pester contre vous et qui dit « Non, mais faut arrêter de dormir, Seb, t'es un boulet. » Qu'est-ce qui s'était passé?
Là, c'était des dates. Seulement le deuxième jour, on était parti un peu fatigué. En fait, on était bien occupé la semaine avant de partir. C'était oui. Peut-être une erreur. Et sur un décollage en fin de journée où on avait déjà fait plus de 1500 mètres de dénivelé et sous la canicule, donc assez fatigant. Après avoir préparé l'aile juste avant de décoller, je me détache pour aller enlever un caillou qui entravait une suspente, là, donc une partie du parapente. Et en revenant, je me réinstalle aux commandes dans ma sellette. Et j'oublie d'accrocher le sac à dos à la sellette. Parce que du coup, comme on a un sac qui fait à peu près 25 kilos sur le dos, on l'a sur les épaules quand on décolle, mais en vol, on l'enlève. Sinon, ce serait vraiment inconfortable. Du coup, on le fait glisser sous les fesses et il se retrouve suspendu sous nous. Sauf que là, j'avais oublié de l'attacher. Donc, quand je commence à le faire descendre, je me rends compte assez rapidement de mon erreur. Donc, ça va, il n'est pas tombé. Sinon, on aurait cassé une bonne partie du matériel qui était dans le sac.
Puis ça aurait pu tomber sur quelqu'un en plus.
Il aurait vraiment fallu pas de chance, mais pourquoi pas. En pleine montagne, c'est rare d'avoir des gens en dessous, mais sait-on jamais. Ça, avec la fatigue, effectivement, ça a vite agacé Céline de voir que j'avais pas été parfait sur la préparation du matériel.
Ouais, ça aurait pu tourner à la catastrophe.
Ça aurait peut-être mis des bâtons dans les roues pour la suite, quoi. Si on pétait la tente, du matériel, le sac, on se serait peut-être arrêté là. Mais bon, là, ça reste le sac, c'est pas trop grave, mais il faut pas faire le même genre d'erreur avec le lien entre la sellette et le parapente, par exemple. C'est plus problématique que si c'est le sac, ouais.
Alors dans le film, vous n'avez pas filtré des moments où ça se passe pas bien. Donc ça, c'est tout à votre honneur parce qu'on laisse ça dans le film, c'est chouette. Et il y a par exemple un déco où vous courez jusqu'à plus soif et puis il y a rien qui décolle.
Ça arrive toujours de louper un décollage. Les conditions, même des fois si elles sont parfaites, si on fait une petite erreur, c'est pas forcément grave sur un déco qui n'est pas trop raide. Du coup, il suffit de recoucher la voile et de la remonter, de la réétaler, de repartir. Si on en loupe plusieurs avec 25 kilos sur le dos, c'est sûr que c'est un peu moins agréable que quand on les loupe en temps normal sur une randonnée classique avec un tout petit sac.
Il y a aussi des posés qui sont assez rigolos, des posés dans la bouse de vache carrément. Vous n'arrivez pas à courir pour l'atéro, il y a besoin de courir un petit peu. Tout ça à cause de ce fameux sac.
Ouais, le sac, effectivement, il est très bien quand il est pendu sous nous en l'air, parce qu'au final, on a tout le chargement avec nous en vol et on ne le sent pas une fois qu'il est pendu sous nous. Mais par contre, sur les phases de décollage et d'atterrissage, ça complique un peu la tâche. Sur les atterrissages, en général, on prenait le choix de le garder en dessous de nous plutôt que de le remettre sur les épaules, histoire de pouvoir piloter correctement jusqu'au sol. Mais par contre, dès que tu as les pieds par terre, comme tu as le sac derrière les genoux, c'est impossible de courir. Donc, les quelques fois où il a fallu trottiner, c'était parfois la gamelle. Ouais.
Dans le film, on voit qu'il y a des moments où c'est compliqué, le début est très difficile, mais après, vous faites de plus en plus de distance, donc genre 30 km, et puis après, il y a un vol magique, votre plus grand vol, 94, je crois, km, où vous voyez le pic Bernina à vos côtés, et qui est un 4000 mètres.
Ouais. Ouais, c'est ça, le dernier 4000 en partant vers l'est dans la chaîne des Alpes. Effectivement, ça fait du bien de pouvoir faire une telle distance en volant, c'est tout ça que tu fais pas à pied. Ouais, à partir du moment où le parapente que tu charries tout le début du voyage peut vraiment te servir à avancer par le ciel, c'est génial.
Et en plus, vous êtes au-delà des 3000 mètres, vous n'avez plus à vous soucier de vous poser en catastrophe si jamais vous remontez pas.
Du coup, tu as un peu de marge, effectivement. Il y avait beaucoup de vols où on était entre 3000 et 3006, même 4000 mètres quand on était en face sud du Mont Blanc. Après, des fois, ça peut aller vite si tu prends en compte que les vallées, des fois, montent au-delà de 3500 mètres, comme par exemple quand on n'était pas loin du Mont Blanc. Ça peut arriver même relativement haut en altitude de se faire enfermer dans un endroit qui aérologiquement te permet moins facilement de sortir, de continuer. C'est pas parce que t'es haut que c'est forcément tout serein sur le point de vue de la navigation, mais c'est sûr que majoritairement, plus t'es haut, plus c'est simple d'avancer.
Alors évidemment, cette aventure, c'est aussi un défi sportif. Donc vous avez fait 23 vols en 24 jours, 630 km de vol et 450 km à pied. Le début du voyage, ça a été chaotique puisque au lieu de faire 8 heures de vol, vous avez mis 8 jours.
Ouais, alors je l'ai fait qu'une fois de mettre 8 heures pour arriver aux environs d'Albertville. J'avais imaginé peut-être pouvoir refaire la même chose en biplace, mais du coup, ça n'a pas été du tout le cas. Ouais, on avait des conditions d'aérologie qui étaient moins propices. C'était la canicule et après, au final, c'est un tout petit peu comme si tu avais une couverture d'air chaud en altitude qui va empêcher les ascendances de monter.
Ouais, comme un couvercle.
Du coup, toi, en bas, ça fait ce couvercle. Toi quand tu es dessous, tu peux pas monter. Si tu as la chance de pouvoir décoller au-dessus de ce couvercle, ça peut bien se passer. Il y en a qui ont fait des très beaux vols ce jour-là ailleurs que là où on était. Mais du coup, pour nous, c'était pas tactiquement, on avait sûrement fait une erreur de placement, on va dire, sur la carte vis-à-vis de cette canicule. Mais du coup, ça s'est soldé par des journées de marche assez longues et sous la chaleur.
Et avec du dénivelé aussi.
Ouais, en moyenne, on faisait 1400 mètres de dénivelé par jour sur la totalité du voyage.
Oui, et puis dans les mauvaises périodes, vous faisiez plus de 30 km à pied.
Oui, c'est arrivé, ouais. Pour avoir envie de marcher. C'est des choix à faire. Nous, on avait des sacs qui, entre guillemets, étaient pas trop lourds par rapport à certaines personnes qui font ce genre d'expédition dans des endroits un peu plus sauvages, comme par exemple au Pakistan ou ailleurs. Il y a des gens qui font ce genre de voyage avec des sacs de 35-40 kg. Et là, du coup, tu fais plus 30 km à pied par jour et 1400 mètres de dénivelé. C'est plus possible. Donc là, c'est différent. En général, dans ce cas de figure, ils vont plutôt monter sur un sommet, prendre le temps. Et si les conditions ne sont pas là tout de suite, au lieu de continuer à avancer, ben, ils attendent un ou deux jours que les conditions soient propices au vol pour pas avoir encore à porter ces sacs énormes.
Ben, vous dites que les difficultés, c'est pas les conditions fortes que vous allez pouvoir trouver en vol, mais plutôt la patience, attendre le bon moment.
Le parapente, c'est globalement un sport d'anticipation. Il faut réussir à trouver les bonnes conditions, le bon moment pour voler et anticiper aussi tout ce qui peut être plus piégeux.
Et le vol de distance, ça impose de prendre des décisions tactiques au bon moment et de repérer les pièges. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme genre de piège quand on part comme ça plus loin?
Ben, globalement, la masse d'air, ça... Faut garder en tête que même quand le ciel est tout bleu, c'est une masse qui potentiellement bouillonne dès qu'il y a un peu des ascendances. Une rivière, on va aller voir les remous, on peut les visualiser. En l'air, il peut y avoir des signes comme des nuages, voir le vent au sol sur les arbres, d'autres choses qui volent, des oiseaux, d'autres parapentes, ainsi de suite. Mais globalement, ça reste quelque chose de relativement invisible. Donc, c'est plus les connaissances théoriques et l'expérience qui vont permettre de se faire une image dans sa tête de à quoi ressemble la masse d'air et où sont les pièges. Et les pièges, au final, c'est globalement ce qu'on appelle des turbulences. C'est au lieu que la masse d'air soit inerte ou éventuellement avance dans le même sens de manière homogène et soit du coup comme un courant tout lisse, et ben on peut avoir des endroits où le vent à 50 mètres près ne va pas dans le même sens et du coup ça fait des cisaillements, ou un rouleau derrière une crête ou derrière une ascendance. Et du coup, comme on vole avec au final un bout de tissu souple, un grand chiffon,
ouais, une sorte de tapis volant.
Selon la force d'une turbulence, bah, ça peut fermer un bout d'aile et du coup, ça va voler un peu moins bien, ça va se diriger un peu moins bien. Et si par exemple, on est proche du relief, c'est quelque chose à essayer au maximum d'éviter.
Et vous aviez emporté un parachute au cas où vraiment la voile, ouais, se fermerait ?
Ouais, c'est un parachute de secours. Alors, c'est pas une assurance vie parce que, imaginons que tu aies besoin de le tirer parce que ta voile s'est fermée et que tu n'arrives plus à l'ouvrir ni à la piloter, que tu peux sortir ce parachute de secours, tu te retrouves pendu dessous, mais c'est pas dirigeable. Donc, si par hasard, il vient te déposer sur une ligne électrique ou dans une falaise, t'es pas forcément bien, quoi. Faudrait qu'il te dépose en douceur au milieu d'un champ dans une botte de foin, dans l'idéal. Mais du coup, c'est une fois que tu l'as tiré, c'est aléatoire.
En plus, il y a concurrence entre la voile du parachute ouverte et la voile du parapente qui continue à porter un petit peu.
Exactement, ouais. Donc là, dans ces cas-là, il faut réussir à neutraliser rapidement l'aile principale pour qu'elle laisse le parachute voler au maximum de ses performances et du coup descendre le moins vite possible.
On va faire une petite pause musicale avec un morceau qui est dans la BO de votre film, je crois. Ça s'appelle Land Afar.
Ouais, c'est Guillaume Ditch qui a fait le montage et qui a du coup choisi cette chanson. Ouais, on lui a envoyé toutes les images. Après, on a discuté un peu, on a échangé un peu, mais globalement, c'est lui qui a tout monté.
En deuxième partie, on parlera de la dimension écolo-nature et puis des topo-guides de vol rando en U-bike que vous avez écrits et de vos projets. bonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Sébastien Romilleux. Alors, on a promis de parler de la dimension écolo-nature. Elle est très présente, cette nature est partout dans le film. On voit que vous prenez les toilettes dans les rivières, que vous faites le réveil au chant des oiseaux, les nuits sous les orages. C'est une ode écologique.
Ce qui est sûr, c'est que ce genre de voyage, ça permet de se réimmerger complètement dans la nature. Et des fois, on se rend compte qu'on n'a plus trop l'habitude de le faire. Et du coup, ça fait vraiment une grande parenthèse, une grande respiration de pouvoir se poser comme ça, d'évoluer au rythme, au final, de la nature. Ça, ouais. Ça fait du bien.
Oui, et puis observer la nature, c'est quand même votre dada, quoi, votre passion. Vos credos, c'est ne pas avoir d'attache pendant le voyage, se soucier du présent et surtout s'émerveiller.
Au maximum, oui. Au maximum. Après, s'émerveiller, par exemple, c'est même pas au final quelque chose de facile, quelque chose qu'on apprend quand on est petit. Ça dépend aussi des parents qu'on a, mais ouais, de réussir à s'émerveiller, c'est un peu la garantie de passer des bons moments, même si ça vole pas, même si on marche beaucoup. Si on arrive juste à savourer le fait d'être dehors, de voir quelques animaux, de voir quelques oiseaux, au final, ça assure de passer des bons moments sans se prendre la tête.
Oui, et puis au point de vue oiseau, vous avez eu des moments forts. Vous avez eu la chance de voir une maman tétra et ses petits, même une femelle lagopède.
Ouais, du coup, c'était pas forcément une bonne chose, mais comme on était dans des endroits sauvages, on était régulièrement hors sentier. Donc c'est arrivé deux fois à Céline de surprendre sans faire exprès une maman avec ses petits, un coup une femelle tétra, un coup une femelle lagopède.
Ouais, il n'y a pas eu une grosse perturbation, quoi.
Non, mais du coup, ça lui a fait une petite explosion de bébés oiseaux à ses pieds, donc ça l'a surpris à chaque fois. Mais globalement, on voyait la mère faire un peu la recherche de ses petits autour derrière. Donc on espère qu'elle les a tous retrouvés avant qu'un renard passe par là.
Bah, il faudrait retourner, refaire un vol là-bas pour vérifier. C'est un peu les projets que vous aurez, on en parlera tout à l'heure, mais refaire des vols montagne rando.
Ouais, le vol montagne, vol randonnée, on va dire, plus classique, donc juste à la journée, monter sur un sommet, descendre en volant, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, qu'on a la chance de pouvoir faire régulièrement en Ubaye, là où on habite. Donc il y a beaucoup de sommets sauvages dans cette vallée. Et après, on a plein d'idées de sommets éparpillés dans les Alpes, accessibles plutôt en alpinisme, d'où on aimerait pouvoir un jour monter et redescendre en volant.
Pour parler encore de ce voyage somptueux, paysages qui sont extraordinaires, comme les laguis de Piani dans les Dolomites.
Ouais, dans le secteur des Trecime di Lavaredo. Ouais, c'est des endroits magnifiques. Alors pour le coup, les Trecime, c'est très fréquenté. Mais à peine on s'en éloigne, il n'y a déjà plus personne, donc il y a de quoi profiter vraiment tranquillement.
D'ailleurs, on peut voir des photos dans Carnet d'aventure, puisque le dernier magazine retrace votre expédition.
Oui, le magazine effectivement de Johanna Nobili, son mari Anthony, Manon, qui nous ont permis de partager ça dans leur revue.
On voudrait dire un petit mot sur le vol rando dont vous avez parlé tout à l'heure et sur le topo guide de vol rando que vous avez fait sur l'Ubaye. Donc ça a demandé des années pour répertorier tout ça.
Globalement, ouais, quand je suis arrivé dans la vallée, je commençais à voler et j'étais souvent tout seul. J'aimais bien la montagne, la rando, donc je me suis amusé à décoller de plus d'endroits différents possibles. Et après, un coup, bon, il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée, pourquoi pas d'en faire un topo, comme je m'amusais à les répertorier. Et entre l'idée et le bouquin sorti, il y avait à peu près 2 ans. Ouais.
Vous avez testé tous les sommets en vol rando. Je veux dire, tous ceux dont vous parlez dans le topo guide, vous les avez testés.
Ouais, voilà, exactement. Et là, je m'amuse encore. Là, je dois en avoir encore. J'en ai fait à peu près 70 encore, en plus de ce qu'il y a dans le topo, il y en a encore 70 qui me trottent en tête, que j'aimerais bien faire un jour. Enfin, il y a vraiment de quoi s'occuper.
Et ça, c'est votre deuxième passion, définitif l'escalade, parce qu'il doit y avoir des moments où l'escalade est indispensable pour arriver au sommet.
Il y a certains sommets ouais, où ça nécessite, on va dire, des techniques alpines, et il y en a certains où on s'amuse à monter exprès par des grandes voies d'escalade, ce qui permet un peu de coupler vraiment les deux activités.
Et du coup, vous trouvez les endroits pour décoller
mais oui, on a besoin d'un minimum de place. Alors du coup, ça, on le repère soit en étant déjà passé sur les sommets, soit en étant sur des sommets voisins, en regardant sur les photos, aux jumelles. Et Et sur quelques itinéraires, les décollages ne sont pas forcément sur le sommet, mais une cinquantaine, 100 mètres, 200 mètres en contrebas, par exemple.
Dans vos projets, on a compris que vous voulez reprendre l'escalade, mais aussi un nouveau topo qui serait sur les cascades de glace.
Oui, ça c'est un projet tout neuf avec un copain, Nicolas Jean, qui fait beaucoup de montagne, qui est en train de passer le diplôme de guide. Et ouais, la cascade de glace, c'est encore une autre activité qui permet encore une fois d'aller profiter d'endroits sauvages, de paysages magnifiques en montagne, à la saison hivernale où du coup ça vole un peu moins.
C'est la liaison pour entre deux périodes de vol.
Ouais, globalement, à la montagne, à toutes les saisons, il y a toujours des activités qui s'y prêtent un peu mieux, et sur l'année, ça permet de varier les plaisirs, de varier les pratiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien avec Céline, c'est rester polyvalent, un peu pouvoir toucher à tout.
On se doute que ce périple a apporté beaucoup d'évolution personnelle. Ça a changé vos limites physiques et mentales.
Ça permet de les tester et de voir si ce qu'on imagine colle avec la réalité des choses. C'est toujours marrant de voir qu'on peut se mettre taquet complet juste en marchant. Finir par avoir mal un peu partout et l'impression qu'on ne peut plus continuer, alors qu'on ne fait que marcher, entre guillemets. Et après, ouais, des projets comme ça, plus ils sont gros, plus on s'y investit, plus ils sont longs, plus ils sont aussi à même de nous faire nous poser des questions, de faire évoluer nos points de vue. Et c'est bien parce que ça permet d'évoluer, d'avancer, pas toujours de la manière dont on imagine, mais pour se remettre en question, c'est effectivement génial ce genre de voyage.
On n'a pas parlé du final de votre voyage qui est l'arrivée en Slovénie. Vous aviez énormément de chemin à faire. Céline qui a demandé à ce que vous continuiez jusqu'au milieu de la nuit sous la lune.
C'était un concours de circonstances assez particulier. Le matin, c'était le dernier jour où il y avait des conditions aérologiques qui nous permettaient d'avancer vraiment en volant. On n'a pas fait un vol aussi long que ce qu'on avait imaginé. Et donc on pose, on se débrouille pour trouver un endroit pour manger un peu. Et on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de la journée du lendemain. Il y a possibilité de faire un vol le matin, mais c'est à 15 km à vol d'oiseau et 1000 mètres de dénivelé. Sachant que le matin, on en a déjà fait 1006 pour pouvoir monter sur le décollage.
Ouais, donc ça poussait le bouchon un peu loin, ouais.
Ouais, du coup, on se dit il va falloir se lever super tôt pour pouvoir être là-haut le matin à 9h, alors que c'était même pas sûr que ça vole vraiment bien. Donc, on n'envisageait pas de se lever tôt et de se dépêcher pour ce genre de vol. Du coup, pour rigoler, on se dit, on n'a qu'à tout faire ce soir, de nuit. Et Céline, elle a pris ça comme un petit défi.
Un challenge.
Un challenge. Et du coup, on est parti donc vers 18h30, 19h. Et on est arrivé à 3h du mat, sous la pleine lune, un peu bien fracassé. Et on se levait à 7h pour le dernier petit vol que Céline a fait et qui nous a permis de poser en Slovénie.
Oui, il y a beaucoup d'élégance parce que c'est Céline qui fait le dernier vol.
C'était un vol que ça lui faisait plaisir de faire ce dernier vol. Moi, j'étais content aussi qu'elle puisse faire ce vol qui nous amène, entre guillemets, à l'arrivée. Et non, ouais, c'était génial qu'elle puisse faire le dernier.
Ouais. C'est une image fabuleuse d'une réussite de couple, en définitive. Vous êtes toujours soudés et vous faites des cadeaux l'un l'autre, même au dernier jour.
Mais oui, c'était génial de pouvoir arriver tous les deux là-bas en Slovénie, au final assez loin de la maison. On s'en rend compte quand on rentre en train et en stop derrière, ça fait un bon bout de chemin.
Alors on va laisser le lien pour retrouver votre film, là, il est sur Vimeo.
Si on tape Au gré du vol.
Ouais, c'est le nom du film, ouais.
Normalement, on le trouve assez facilement, Au gré du vol sur Vimeo.
Et on peut peut-être le trouver aussi sur le site du festival Regard d'Altitude, où vous l'aviez passé.
Oui, oui, exactement, le festival du film de Barcelone.
J'engage les auditeurs à aller voir ce film parce que on y voit tout ce qu'on vient de raconter maintenant. Et en image, c'est deux fois plus rigolo. Merci Seb d'avoir rattrapé en vol votre sac sous le parapente et ainsi d'avoir pu être présent pour nous immerger dans votre chaleureuse aventure.
Un grand merci à vous pour ce petit passage.
Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?